Swing Time 2016. Swing Time, une émission préparée, bien préparée, très très bien préparée et présentée, bien présentée, très bien présentée, par d'une part Claude-Alain Christophe et d'autre part Dominique Gouguet. Et aujourd'hui, on sait tous ce qui nous attend. Parce qu'on nous l'a dit la semaine dernière, donc c'est la même chose que la semaine dernière, mais c'est la suite.
Bonjour Martine.
C'est l'épisode numéro 2. Bonjour,
bonjour
messieurs.
Bonjour
à tous.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Claude-Alain.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons reprendre la diffusion du spectacle donné à l'initiative du Yacht Club à l'Opéra Théâtre de Limoges le 18 mars 2014 pour commémorer la venue 50 ans auparavant sur cette même scène de la plus prestigieuse formation de toute l'histoire du jazz, puisqu'il s'agit de l'orchestre de Duke Ellington. Pendant un demi-siècle, cet orchestre a réuni quelques-uns des plus grands solistes que le jazz nous ait donnés, mais surtout, l'homme qui le dirigeait compte parmi les plus grands artistes du XXe siècle. Ce spectacle, intitulé Ellington French Touch, évoquait les nombreuses visites de Duke Ellington en France et son amour de notre pays. Il avait été imaginé par Laurent Mignard avec la participation du Duke Orchestra qu'il dirige et de la talentueuse Nicole Rochelle. Nous avons écouté la semaine dernière des extraits de la première partie du spectacle et nous commençons cette semaine par le morceau qui ouvrait la seconde partie « Old Circus Train Turnaround ». Il s'agit d'une composition que Duke avait écrite et arrangée en 1965 pour le festival de Juan-les-Pins. Il existe une vidéo où l'on voit l'orchestre répéter ce morceau, puis le jouer en concert le soir même. On trouve aussi une transcription du dialogue de Duke avec ses musiciens pendant cette répétition, qui prouve qu'il avait à peine eu le temps d'en terminer l'écriture et que les modifications furent encore apportées à sa composition pendant cette répétition. Il s'agit d'un blues sur tempo moyen dont Johnny Hodges était la vedette et dont l'orchestration est particulièrement riche et énergique. L'arrangement fait intervenir toutes les sections et rappelle que si la musique de Duke était particulièrement belle, originale et subtile, elle était, comme tout le jazz authentique, essentiellement dédiée à la danse. Et dans la vidéo que je viens de vous évoquer, on voit Duke exécuter des pas de danse tout en dirigeant son orchestre pendant tout le morceau. L'interprétation qu'en donne ici le Duke Orchestra est très réussie et reprend tout l'arrangement écrit par Duke Ellington. On entend vers le début un court solo de saxo ténor, certainement dû à Carl Schlosser, puis ce sera l'alto chantant de Didier Desbois qui entrera en scène. Il dialogue avec l'orchestre comme le faisait Johnny Hodges et s'exprime ici avec la même apparente désinvolture que son modèle. Précédé par la voix de Duke Ellington s'adressant au public durant un concert, voici Old Circus Train Turnaround, où l'orchestre est fort bien soutenu par une section rythmique efficace.
And then we take you backstage for a close-up view of our rehearsal, where you'll see the cats in the band very nonchalantly sitting around on their double flat sort of waiting to be impressed by some quadruple sharps. You'll see us take things out of the music, one bar here, put another bar in there. And as I say, sometimes they play pretty good.
Thank you.
Nous écoutons maintenant un beau thème d'Ellington, What Am I Here For? Le soliste y est un membre de la section de trompette, Sylvain Gontard, qui, à l'instar de Clark Terry, joue ici du bugle. On remarquera au passage le très beau son de la section des anges du Duke Orchestra. En 1961, Duke Ellington était sollicité par la firme Warner pour écrire la musique du film Paris Blues, un film américain censé donner une image du monde du jazz parisien. Dans ce film, Lou Armstrong jouait le rôle d'un certain Wildman Moore, personnage pour lequel le scénariste s'est largement inspiré de celui à qui le rôle fut confié. Autant dire que Louis y joue son propre personnage. Malheureusement, la direction de ce film fut confiée à un réalisateur sans talent et le seul intérêt de ce navet est la scène où Wildman Moore, alias Lou Armstrong, vient faire le bœuf dans une cave parisienne. Pour cette scène, Duke avait composé un morceau qu'il reprit plus tard avec son orchestre sous le titre de Wildman Moore. Dans la version que nous en donne le Duke Orchestra, le trompette Jerome Hutchberry s'inspire du jeu de Lou Armstrong dans le film, même si à la fin, il nous replonge dans l'atmosphère ellingtonienne avec une coda à la Cootie Williams. Thank you. Mes amis ici présents m'ont fait remarquer que Martin Reed n'était pas un réalisateur sans talent. Alors, je reviens sur mon expression, je dirais que c'est un réalisateur qui n'a pas compris grand-chose à l'esprit du jazz. Voilà.
Pour le reste, il a signé de beaux films, bon, Martin Reed.
Eh bien, très bien. Duke Ellington était tellement amoureux de la France qu'en 1962, il enregistra avec son orchestre un album intitulé « Midnight in Paris », composé de chansons françaises pour lesquelles il avait écrit avec son compère Billy Strayhorn de superbes arrangements. Nous écoutons à présent celui écrit sur la chanson « Sous les toits de Paris ». Le Duke Orchestra reprend l'orchestration que Duke avait écrite pour son orchestre sur cette valse, mais il y ajoute une voix, celle de Nicole Rochelle, qui vient se mêler à l'interprétation, son chant étant très astucieusement traité comme une voix supplémentaire de la section des saxophones. Écoutons « Under Paris Skies ». Évidemment, ce n'est pas très jazz, mais c'est quand même de la belle musique. Hein. Alors, on va encore écouter un autre morceau extrait de ce volume-là. On appréciera encore l'arrangement original de Duke derrière la chanson qui figurait dans cet album aussi, qui, sous le titre de « No Regrets ». Chez Duke, les paroles étaient remplacées par le trombone de Lawrence Brown. Mais Laurent Mignard n'a pas craint de faire reprendre ce grand succès d'Édith Piaf par Nicole Rochelle. Sa voix et la sensibilité dont elle fait preuve ont séduit le public. En 1941, Duke Ellington avait écrit la musique de la revue Jump for Joy, qui fut programmée dans un théâtre de Los Angeles. De nombreux artistes y participèrent, dont son orchestre et sa chanteuse Ivy Anderson. Le Duke Orchestra a mis à son répertoire deux morceaux de ce spectacle avec la participation de Nicole Rochelle. Blip Blip, que nous avons écouté la semaine dernière, et Chocolate Shake, que nous allons écouter maintenant. Nicole Rochelle est une artiste aux multiples talents puisqu'elle est comédienne, chanteuse et danseuse, comme on a pu le constater ce soir-là sur la scène de l'opéra, mais aussi plus récemment sur celle du CCM Jean Gagnant lors de sa prestation avec Julien Brunto pour un autre concert du Hot Club. Aujourd'hui, même si Swing FM ne peut vous offrir que son talent de chanteuse, l'arrangement orchestral est tellement swingant qu'avec un peu d'imagination, on peut aisément la voir ou la revoir danser sur ce Chocolate Shake. Thank you. Avec l'interprétation suivante, on retrouve la superbe musique que Duke Ellington et Billy Strayhorn avaient écrite pour le film Paris Blues. On y retrouve la couleur unique que cet orchestre incomparable savait donner à la musique de son chef. Avant la partie chantée par Nicole Rochelle, c'est Didier Desbois qui apparaît à l'alto. Le Duke Orchestra joue ici le thème principal du film. Duke Ellington avait pris l'habitude de dire à son public à la fin des concerts « I love you, Madeleine ». ce qui devenait, quand il était en France, « Je vous aime à la folie ». Et cette phrase n'était pas dans sa bouche une formule pour s'attirer les bonnes grâces du public, mais bien une réalité, car Duke Ellington ne vivait vraiment que pour sa musique et son public. On sait que si des musiciens l'ont quitté, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le rythme infernal de cet orchestre qui jouait 365 jours par an. On a de nombreux exemples de cette vie de folie. Dans le dernier numéro du bulletin du Yacht Club de France, Jacques Canero nous rappelle cette déclaration de Duke. « La route est ma maison et je me sens seulement à l'aise quand je me déplace. New York n'est que l'endroit où je conserve ma boîte à lettres. » L'ami Jacques écrit aussi dans sa chronique d'un concert enregistré à cette époque « À la fin d'octobre 1969, Duke Ellington entreprend en Europe une de ses tournées marathon qui dépasse l'entendement. 32 cités visitées, 35 jours de concerts d'affilée avec parfois deux séances quotidiennes. » Dans sa préface du livre de Duke, traduit récemment en français, Claude Carrière cite un autre exemple lors d'une tournée de 1971, qui voit Duke, alors âgé de 72 ans, donner un concert le 13 novembre à Strasbourg, le 14 à Barcelone, avant de se produire le 16 à Rio de Janeiro. Et bien sûr, c'est durant ses voyages, entre deux concerts, qu'il prend le temps d'écrire musique et arrangements. Et c'est souvent la nuit, après la fin d'un concert, que l'orchestre rend au studio pour une séance d'enregistrement. Alors oui, on peut dire que Duke aimait la musique et son public à la folie, au point de ne jamais les quitter. Et c'est ce que la voix d'Ellington vient nous dire avant que le Duke Orchestra et Nicole Rochelle n'attaquent le morceau final, « Love You Madly ». Nous interromprons cette interprétation avant que Laurent Mignard ne se lance dans de longs remerciements au public, aux organisateurs et à ses musiciens. C'est donc avec ce Love You Madly tronqué que nous terminerons la retransmission de cette belle soirée présentée par le Hot Club de Limoges à l'Opéra Théâtre le 18 mars 2014.
Bon, merci. Je vous aime à la folie.
Voilà, c'est comme ça que nous terminerons cette présentation, cet hommage à Duke Ellington, sans doute un des tout plus grands artistes du XXe siècle. Ça, je crois que personne ne peut en douter.
Sans aucun doute.
Alors voilà, on va passer maintenant à un autre grand bonhomme du XXe siècle, puisque notre Dominique va nous présenter à nouveau Coleman Hawkins.
Eh bien voilà, c'est la deuxième et dernière émission consacrée donc au maître du sax ténor Coleman Hawkins. Nous l'avions laissé en octobre 1939 avec le fameux Body and Soul. En novembre 1939, Hawkins forme un grand orchestre pour jouer à l'Arcadia Ballroom, formation qu'il dirige et dissout à plusieurs reprises au cours des années suivantes. Le voici à la tête de son big band dans Rocky Comfort, gravé le 9 août 1940. Les solistes sont Joey Guy à la trompette, Claude Jones au trombone et Hawkins lui-même en plein swing durant toute la seconde moitié de ce Rocky Comfort. Durant les années 1940, Coleman Hawkins enregistrera un très grand nombre de titres de très haut niveau, la plupart du temps avec des orchestres de studio, composés de musiciens de grande classe, telle cette séance du 4 décembre 1943, où il est en compagnie de Cootie Williams à la trompette, Edmund Hall à la clarinette, Art Tatum au piano, Al Casey à la guitare, Oscar Petitford à la basse et Sidney Catlett à la batterie. 4 titres sont enregistrés dans ce fameux My Ideal. Hawkins expose le thème avec feeling, suivi par un chorus non moins beau d'Art Tatum. Hawkins faisant preuve de la plus haute inspiration dans le troisième chorus, My Ideal. Mm-hmm. Quelques jours plus tard, le 8 décembre 1943, il se retrouve à nouveau dans les studios d'enregistrement aux côtés de Bill Coleman à la trompette, Ellis Larkins au piano, Al Casey à la guitare, Oscar Petitfort à la basse et Shelly Manne à la batterie. Il grave plusieurs titres, dont « How Deep Is the Ocean ». Dès les premières mesures, on est empoigné, subjugué, par la sonorité admirable d'Hawkins, qui déroule un solo somptueux d'une beauté dramatique extraordinaire et d'une inspiration jamais prise en défaut. How deep is the ocean?
Thank you.
Lorraine, enregistré le 23 décembre 1943 avec Eddie Heywood au piano, Oscar Pettiford à la basse et Shelly Men à la batterie, est aussi une éclatante réussite du fabuleux saxo-ténor. Le premier chorus est l'œuvre de l'excellent pianiste Eddie Heywood, suivi de deux chorus par Hawkins, là encore en état de grâce. Sweet Lorraine. passons d'un chef-d'œuvre à un autre avec le célèbre et poignant Yesterdays au lyrisme exacerbé. Enregistrement du 16 février 1944. Yesterdays. Le grand pianiste Teddy Wilson s'est retrouvé à plusieurs reprises dans les studios d'enregistrement aux côtés d'Hawkins. Les voici le 29 mai 1944 dans ce beau et vibrant Don't Blame Me avec également John Kirby à la basse et Sidney Catlett à la batterie. Don't Blame Me. Thank you. Avec cette même formation, Just One of Those Things montre un Hawkins très à l'aise sur ce tempo vif, tout comme le véloce Teddy Wilson, Just One of Those Things. Thank you. bien soutenu par Fred Pépin.
Oh là là, c'est quelle époque, quelle époque épique, comme dit l'autre. Incroyable. À l'époque, tout le monde jouait dans le bon style.
Dans le bon timing.
C'était formidable. Il n'y avait pas le moindre chose qui clochait. Quoi. C'était merveilleux.
It's the Talk of the Town a été enregistré le 9 mars 1945 avec Howard McGee à la trompette, Sir Charles Thompson au piano, John Simmons à la basse et Denzin Best à la batterie. Hawkins, sur le mode de la confidence, trouve là encore sa meilleure inspiration et sur cet tempo lent n'en swing pas moins intensément. It's the Talk of the Town. Je vous ai proposé quelques-uns des chefs-d'œuvre de Coleman Hawkins des années 40, décennie d'une intense création pour le grand saxo-ténor. Dans les années 50, il jouera alternativement à New York dans divers petits cabarets et au sein du JATP de Norma Granz pour des tournées aux USA et dans le monde entier. Il continue à enregistrer abondamment et ses enregistrements aux côtés par exemple de Tiny Grams, de Ben Webster ou en quartet avec Ray Bryan sont de belles réussites. En 1957, sous le nom de trompette Rex Stewart, il participe au très remarquable recueil en hommage à Fletcher Anderson, Tribute to Fletcher Anderson, qui réunit un véritable All-Stars de musiciens ayant fait partie de la célèbre formation. Rex Stewart et Coleman Hawkins sont les deux brillants solistes de A Hundred Years of Today. Hawkins retrouvant ici l'accent et l'inspiration de ses plus grandes heures. On entend également en solo brièvement Al Casey à la guitare et Red Richard au piano. A Hundred Years of Today. Mmh. début au milieu des années 60, Coleman Hawkins joue au Village Gait et au Village Vanguard à New York, avec un quartet comprenant le pianiste Tommy Flanagan, le contrebassiste Major Hawley et le batteur Eddie Locke. Il enregistre de nombreuses faces avec cette formation en 1962, dans ce Climb Every Mountain, le 12 août de cette année-là, où il se montre particulièrement émouvant, morceau qui terminera cet hommage rendu au maître du saxo-ténor, Climb Every Mountain. Coleman Hawkins est décédé le 19 mai 1969 à New York. En mauvais état de santé, les dernières années de sa vie ont été très pénibles pour lui et les enregistrements de cette époque ne reflètent pas le génie qu'il a été. Il n'en demeure pas moins le plus grand et le plus influent des saxophonistes ténors de l'histoire du jazz et une figure majeure de cette musique.
C'était Swing Time 2016. Merci Dominique pour nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce génie.
Redécouvrir, parce que
redécouvrir, réapprécier.
Bien sûr. Mais c'est ce que je dis, plus on l'écoute, plus on aime.
Mais c'était quand même une très belle sélection. Hein.
Très belle sélection. Et puis la fin, comme on disait que Dominique, derrière, qui est à la technique aussi, c'était comme le chant du cygne, hein, ce dernier morceau.
C'est vrai, oui. Hein,
proche de la fin. Oui. Oh, c'était beau. Hein. On se retrouve pas la semaine prochaine, paraît-il.
Eh bien non, on va laisser la place à notre ami Alain Charbonnier, qui a toujours des idées originales pour des émissions.
Exactement.
Alors ça va nous faire un petit peu de repos, voilà. On se retrouvera un peu plus tard, Martine.
Un petit peu plus tard, et puis on a le plaisir de l'accueillir sur Swing FM, voilà. Aussi,
exactement.
Alain Charbonnier.
Exactement. Allez, au revoir Martine.
À bientôt.
Et à bientôt.